Il y aura des fleurs, 1991-1992. Je vous propose un résumé de la programmation de Vertical Centre d'artistes à ses tout débuts, alors que la galerie élisait domicile au 1897 boulevard d'Agenais à Laval. Vous serez plongé dans le bloc 1, où je vous présente quelques éléments qui auront retenu mon attention durant cette première année de programmation. Affaires d'art. Avec ce titre plutôt évocateur, la toute première exposition, commissariée par Jacques Blouin, regroupe 9 artistes. Pierre Chartrand, Louis Comtois, Lucio de Heus, René de Rouen, Charles Gagnon, Jocelyn Jean, Michael Meredith, David Moore et Suzanne Scott. Les œuvres furent puisées dans les collections de 7 grandes entreprises avec pied à terre à Laval. L'Alcan, la Banque nationale, Gaz métropolitain, Hydro-Québec, Loto-Québec, Samson-Bélair, Deloitte Touche et United Western. L'un de mes dessins fut réalisé d'après la photographie de la sirène de David Moore. J'ai retenu cette œuvre d'abord parce que c'était une sculpture qui est mon champ d'intérêt premier, mais aussi pour ce que sa posture m'évoquait. La sirène tient à bout portant un petit podium, comme un prix moulé en plexi que l'on remettrait dans un gala de chambre de commerce pour souligner l'excellence en affaires ou pourquoi pas l'excellence en art. Cette offrande me trouble, mais la beauté du sujet me charme. Avec une exposition qui porte le titre « Affaires d'art », je dirais même un titre qui en impose, je me demande si dans cette exposition, l'art n'était qu'affaires. La deuxième exposition est commissariée par Léo Rossandler. Elle regroupe les artistes de la relève Daniel Corbeil, Julie Lefebvre et Alain Vaugier. Je parcours donc les diapositives et les images des œuvres de cette relève pour y voir beaucoup de roches et de câbles, des artefacts, des installations aux allures primitives juxtaposées à des éléments technologiques. Le matériau est à l'honneur. Mais comment résumer l'ensemble? C'est la question que je me suis posée, un peu tout au long de la grosse boîte à diapositives d'ailleurs. Alors, parfois, le dessin se révèle et s'assume. Une grosse roche prend forme, maintenue en son extrémité par un câble, et se trouve dans une posture d'équilibre impossible que seul le dessin permet. Profil exil. Dans cette troisième exposition, on présente le travail de Michel Goulet, avec des œuvres murales et sculpturales élaborées sur une longue période de temps. Ça me parle, les longues périodes de temps. C'est un exercice auquel je me prête souvent que de travailler précisément sur la durée. Dans le communiqué, on parle d'objets banals, de sens commun, de symboles culturels où les codes sont pervertis et convertis. Alors à quoi devrais-je m'attendre par rapport aux diapositives? J'ouvre le dossier. Je me concentre sur la mise en espace en réalisant un dessin succinct. Le croquis reste dans mon cahier un certain temps, et lorsque j'y reviens, quelques semaines plus tard, aucun souvenir ne subsiste dans mon esprit des diapositives consultées, et je regarde mon dessin dans une neutralité d'esprit totale. Seule la poubelle, plantée d'un drapeau rouge tiré d'un ensemble de 16 autres poubelles, me revient à l'esprit. Le quatrième événement combine une exposition de Louise Prescott intitulée « Problèmes » et une performance de Sylvie Sanson sous le thème « Migration ». La phrase suivante que je lis dans le communiqué est tout à fait en phase avec mon projet. Décrire une œuvre, c'est chercher les mots justes qui font du sens avec l'objet créé. Cette phrase-là, elle m'attendait. Je constate que les écrits auront autant d'importance que les photographies d'œuvres dans la construction de mes dessins. Les préoccupations des artistes d'il y a 30 ans ressemblent aux miennes. Je commence à faire partie de cette famille. Pour Louise Prescott, c'est par la peinture que son travail prend forme. Paysage, atmosphère nordique, couleurs fortes, îles, continents, strates, circuits et routes rhizomatiques sans début ni fin. Peinture et matérialité font corps, le continent devient organe, il part à la dérive. Gérald Brault, Pierre Gendron et Yves-Marie Rajotte sont réunis pour la cinquième exposition Extemporalis. tous trois membres de la Société des arts visuels de Laval, leurs noms reviendront souvent dans la programmation et dans les archives des premières années. Mais ici, que nous racontent-ils? Dans les archives photos, j'y vois surtout des mises en espace global et peu de prises de vue rapprochées. Je décèle les enjeux de cohabitation d'œuvres dans un même espace, la cohabitation d'artistes dont les pratiques peuvent être jumelées pour raconter une histoire nouvelle. Dans cette exposition, la peinture domine. Les artistes présentent 30 tableaux pour lesquels ils ont adopté des stratégies personnelles pour nommer les œuvres. Pour Yves-Marie Rajotte, c'est une constante recherche d'un certain précieux, de ce qui est signifiant pour lui. L'unité, le rythme, le vertical et l'horizontal, la lumière et l'obscurité, la transparence, l'opacité, la texture et l'espace, la sensualité et la spiritualité, mais toujours, le tableau reste une interpellation. Le titre de la sixième exposition est simplement le nom des artistes Raymond D'April et Marie-Christine Landry. La mise en espace de leurs œuvres est épurée, avec des projections lumineuses qui les entourent d'une aura dramatique. Raymond D'April s'intéresse au rapprochement qui s'exerce entre ses photographies lors de les déploiements en galerie et la façon dont elles font vibrer l'espace entre elles. Elle précise dans son dossier de présentation qu'elle veut travailler sur la plus petite distance qui soit entre la vie et l'art. C'est une posture que j'adopte dans ma pratique en me laissant largement inspirer par un quotidien domestique qui, par la force des choses, est proportionnellement inégal au temps dédié à ma pratique. Plus on pratique, moins on domestique. Marie-Christine Landry, quant à elle, s'inspire d'éléments tirés des espaces intermédiaires comme la véranda, l'escalier ou le quai. Elle les utilise comme signes du réel qui opèrent sur la mémoire. Avec ces espaces intermédiaires, elle rejoint Joan Schneider lorsqu'il s'inspire des interfaces comme lieu de création. Le travail sculptural de Marie-Christine Landry est franc, géométrique, graphique et m'inspire des enjeux colonisateurs, de construction de forteresses et de canons tombés en désuétude. La septième exposition regroupe 22 artistes et s'intitule « Notes secrètes ». Le communiqué de cette exposition collective des membres annonce d'emblée qu'il s'agit d'une sorte de mise en scène globale où chaque œuvre devient l'élément d'un tout. Les diapositives que je regarde n'offrent aucun gros plan des œuvres, mais j'observe une certaine proximité qui me fait questionner sur le sens du groupe, comme un portrait de famille du membre arrière de cette époque, en 1992. C'est tout un exercice que de rassembler 22 artistes, et qu'il y ait consensus sur la disposition en galerie. Je devine la limite que cela impose à chacun et les dialogues qui s'instaurent entre les œuvres, malgré elles. En galerie, les éclairages et la prédominance du blanc servent de liant. L'ensemble est visuellement fluide, harmonieux, comme si symboliquement cela illustrait la collégialité entre les membres. Éric Aubertin, Agnès Fortin, Mario Lasselle, Patrick Lafont et Olivier Sorrentino sont réunis sous le thème « Bavardage ». Ces cinq jeunes artistes ont travaillé pendant 6 mois dans les ateliers de Vertical, en 1991 et 92, dans le cadre d'un projet subventionné par la Ville de Laval. Les descriptions qui accompagnent leur dossier abordent toutes sortes de notions autour du langage et de la communication. Olivier Sorrentino introduit la notion de fonction phatique du langage qui vise à établir la communication, alors que dans l'installation de ses œuvres, il parle plutôt de la nature silencieuse de sa peinture et qu'après accrochage, il n'y a presque plus rien à comprendre. Éric Aubertin parle de sa découverte du collage et une toute petite ligne de son texte surréaliste, en rime avec « image », y glisse les mots suivants. Rempli de chuchotages, d'un langage sage. De son côté, Mario Lasselle affirme sa volonté de développer la capacité que possède l'œuvre à maintenir un discours continu, que son potentiel narratif se base sur un continuum temporel. La disposition des œuvres sert à entretenir le dialogue entre elles. Il précise que son travail est marqué par une pratique à caractère narratif. Il se questionne sur la relation texte-image et comment l'un acquiert du sens par la rencontre avec l'autre. Agnès Fortin, quant à elle, se figure la réalité par une prise de conscience des choses en soi, près de soi, qui crée de petites joies qui stimulent cette nécessité de se retrouver dans son atelier où elle s'amuse avec la matériau, ces petites choses qui m'inspirent moi aussi et dont mon atelier déborde. Je pourrais aussi citer Patrick Lafont et son poème. Il y a les grandes gueules, les lèvres bien mouillées, à l'heure où le jour s'empourpre, les réalités se tissent. Il y a les beaux parleurs, prolixes et diffus. Les mots en ondes s'additionnent. On parle encore de mots, de capacité à s'exprimer. Vraiment, le langage fascine dans ce groupe de jeunes artistes. Pour revenir à Sorrentino et à la notion de fonction phatique qu'il décrit, qui utilise les mots pour manifester le désir d'entrer en communication, je me demande si on peut dire que l'art a aussi une fonction phatique. Dans quelle mesure un artiste qui crée et produit une œuvre est nourri par ce désir de communication? Dans quelle mesure aussi cette soif peut-elle être assouvie lorsque le plus grand enjeu pour un artiste est justement les opportunités de diffusion et d'expression? Il faut adopter et adapter des stratégies pour atteindre nos objectifs. Il ne s'agit pas juste de créer. Il faut aussi crier haut et fort la nécessité d'être entendu. La communication est vitale et ma stratégie à moi est justement d'observer le déroulement du processus de rencontre avec mes pairs ou avec un public quel qu'il soit pour entretenir la flamme lorsqu'elle scintille dans les yeux de mon interlocuteur. Pour les artistes membres de Vertical, 30 ans plus tard, cette soif de conversation, de communication et de communion est-elle encore un enjeu? Sans aucun doute. Ici prend fin le bloc 1. Je vous invite à passer au deuxième bloc pour accompagner la découverte des dessins inspirés de la programmation 1992 et 1993.